Claude Angeli, bonjour.
Bonjour, Philippe Mandel.
Vous êtes journaliste, vous êtes même plus que ça, vous êtes une figure du journalisme français, ancien rédacteur en chef du Canard Enchaîné. Juste pour situer, c'est vous qui avez sorti l'affaire des diamants de Giscard et l'affaire des micros au Canard. Vous écrivez toujours dans le Canard?
Une chronique de politique étrangère toutes les semaines.
Et vous venez de publier un livre aux éditions Fayard, ça s'appelle « Les plaisirs du journalisme ». Ce sont des entretiens avec Pierre-Edouard Deldic. Mais d'abord, actualité, après l'affaire Fillon, le Canard Enchaîné a sorti hier des infos sur son porte-parole Thierry Soler, qui est dans le collimateur du fisc. Il a promis, suivant les versions, il a menacé de vous faire en procès. Est-ce que vous tremblez? Est-ce que vous avez peur?
Ah oui, on tremble terriblement. D'ailleurs, Fillon avait dit qu'il allait poursuivre ceux qui parlaient de travail fictif.
Oui.
On n'a toujours pas eu de plainte de Fillon. Bien entendu, il n'y portera pas plainte. Et Thierry Soler, pourquoi ne répond-il pas aux journalistes qui cherchaient et qui ont fait cet article? À la fin de leur article, eh bien, on dit que Thierry Soler n'a pas souhaité s'expliquer. Alors maintenant, il s'explique en disant... Tout ça, c'est pour faire peur à d'autres journalistes en disant « Je vais porter plainte et en cascade, taisez-vous ».
Quand le Penelope Gate est sorti, pardon de cet anglicisme, François Fillon avait publié un communiqué sous le titre « Les mensonges du Canard Enchaîné ». Que pensez-vous de sa défense?
Sa défense, elle est pitoyable, mais c'est très difficile à défendre.
Pourquoi?
Anne Méo, qui est une bonne communicante et qui travaille pour Fillon, ça doit être cher d'ailleurs, à mon avis, mais... Pardonnez-moi cet aparté, mais elle n'y peut rien, parce que c'est indéfendable.
Pourquoi c'est indéfendable? Il dit tout est légal.
Mais non, tout est légal, c'est vrai. Mais est-ce que le travail de Madame Fillon était fictif ou réel? Alors que toutes les déclarations, y compris dans la Sarthe, elle vit à Paris, mais elle travaille dans la Sarthe, c'est pas vrai. Ensuite, au début, elle n'était pas au courant. J'en tiens la preuve du fait que le Sunday Telegraph a interviewé Penelope Fillon lorsque son mari est devenu Premier ministre. Et sans être questionnée sur ce point, elle dit « Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari et je ne me suis jamais occupée de sa communication. » Or, au moment où elle le dit, elle est salariée. Donc, à mon avis, comme elle n'est pas stupide, elle ne le sait pas. Ce n'est qu'après que des contrats ont été signés, quand elle a été réellement assistante parlementaire, et où elle n'a rien fait, puisqu'elle n'était jamais ni dans la Sarthe ni à Paris, au moment où il fallait que personne ne la voyait.
Le 8 février, Claude Angeli, il y a une grosse semaine, vous avez pronostiqué ceci, Fillon va disparaître. Est-ce que vous maintenez votre pronostic?
Oui, je pense qu'il va disparaître, parce qu'il est dans l'intérêt de la droite de profiter des jours qui lui restent pour changer de cavalier. Mais s'il ne disparaît pas ce coup-là, il disparaîtra au premier tour.
Question récurrente, mais là, que vous entendez et qu'on vous pose depuis des décennies, qui informe le Canard? C'était même la cause de l'affaire des micros en 73. Vous aviez surpris 6 agents de la DST déguisés en ouvriers. Et là, c'est toujours le cas dans l'affaire Fillon. On vous demande qui informe le Canard?
Qui informe le Canard, ce n'est ni Dati ni Sarkozy. Je sais parce que je ne connais pas les noms. On ne se dit pas les noms entre nous. Mais je sais que ce n'est pas un homme politique et que ce sont des gens bien informés et qui ne règlent pas des comptes. Dites-vous toujours qu'il y a, dans l'opinion et dans la société civile, des gens qui trouvent intelligent, nécessaire d'informer l'opinion et qui informent le Canard. Parce que le Canard est une carte de visite extraordinaire. Nous ne sommes pas X ou Y journalistes Superman, nous sommes X ou Y journalistes du Canard.
Je reviens à votre livre « Les plaisirs du journalisme ». Pourquoi ce titre? Ou plutôt, pourquoi avoir placé le journalisme sous l'angle du plaisir?
Eh bien parce que c'est à la suite des émissions que j'ai faites avec Édouard Deldic sur Radio France Internationale, où en me questionnant et en me remémorant toute une série de choses, j'ai découvert d'abord qu'il y avait du plaisir. Je fais ce métier avec plaisir, sinon je ne le ferais pas. Le plaisir, c'est celui d'enquêter et d'écrire. Ouais. Ensuite... Bien entendu, s'il n'y a pas de relais dans la société civile, s'il n'y a pas de relais politique, s'il n'y a pas de relais au Parlement, si les gens de droite ou de gauche ne pensent pas qu'ils ont intérêt un peu à se présenter différemment devant l'opinion, eh bien il y a les limites et il y a cette idée que le quatrième pouvoir n'existe pas réellement.
Claude Angeli avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Claude Angeli avec nous, rédacteur historique du Canard Enchaîné, qui publie Les plaisirs du journalisme. C'est un récit des interviews avec Pierre-Edouard Deldic. On les avait entendues cet été sur France Culture. Elles sont maintenant en librairie chez Fayard. Alors, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Mais vous récusez le terme de quatrième pouvoir appliqué à la presse. Pour quelle raison?
Ouais, je crois que c'est une idée complètement folle, parce que si nous avions... Un tel pouvoir, eh bien, il est évident que les articles seraient suivis ou de commissions d'enquête parlementaire ou de procès, alors que ce n'est pas le cas.
Bah, allez dire ça à Nixon. Il n'a pas été élu à cause de... Il a dû quitter la présidence à cause d'un article.
Oui, Marcellin a dû démissionner après l'affaire des micros.
Oui.
Mais ça veut dire, ça ne signifie pas que le quatrième pouvoir que représenterait la presse, selon certains, serait vraiment à l'égalité du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et tout. On ne change pas le monde, on ne change pas le pays, on ne change pas la société, malheureusement, je dirais. Parce qu'il y a des moments où on a envie que les commissions d'enquête parlementaires interrogent le président ou le chef du gouvernement sur telle ou telle connerie qu'ils font. Et malheureusement, ça n'est pas le cas.
Ah, là, vous citez des exemples, mais c'est terrifiant. Ou même... Je l'ai appris avec vous, par exemple, après l'affaire des diamants de Giscard offerts par Bokassa, l'Humanité donne l'ordre d'arrêter d'en parler, dans le journal communiste.
Au bout de 3 jours, oui. Mais ça a été le cas aussi de la presse soviétique à l'époque, et de la presse des pays de l'Est.
Ah oui, dans quel but ?
Ben oui, il paraît, enfin c'est ce que on disait aux journalistes de l'Humanité, il ne faut pas en parler parce que ça avantage Mitterrand.
Dans ce livre, vous racontez des histoires assez incroyables, par exemple que... Valéry Giscard d'Estaing, quand il était président, sortait parfois tout seul en voiture de l'Élysée, sans garde du corps, le week-end. C'était pas lui le président normal ?
Non, mais il voulait avoir une vie privée indépendante. Et ça énervait beaucoup Poniatowski, qui était ministre de l'Intérieur, et les policiers qui étaient chargés de le protéger. Et ça énervait aussi le Premier ministre à l'époque, qui a été pendant un moment... Jacques Chirac, et qui était fou de rage quand à 5h ou 6h de l'après-midi ou pendant le week-end, il n'arrivait pas à joindre le président de la République.
Mais ça paraît
y compris pour virer un ministre qui s'appelait Jean-Jacques Servan-Schreiber.
Alors j'ai découvert des choses sur la messagerie Telegram. Alors j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une messagerie cryptée utilisée notamment, mais pas seulement, mais par les gens de l'État islamique, par les terroristes, par les dealers. Or, je découvre dans votre livre qu'elle est également utilisée par beaucoup d'hommes politiques, de droite comme de gauche. De quoi, de qui ont-ils peur ?
Ils ont peur. Même quand les gens sont au pouvoir, ils ont peur des écoutes téléphoniques.
Et alors, vous citez, parmi les utilisateurs de Telegram, Arnaud Montebourg, c'est page 187, François Fillon.
Oui, naturellement.
Pourquoi naturellement ? Comment vous le savez ?
Mais non, mais parce que, disons, on a fait une enquête, et parce que ça circule quand même, les noms. Et puis parce que c'est l'habitude du temps de Pasqua, je me souviens d'avoir eu des discussions avec des gens de Pasqua, et qu'ils ne voulaient pas me parler au téléphone, alors que leur ministre, leur cher ministre Charles Pasqua, était au ministère de l'Intérieur. J'ai dit, mais enfin, quand même. Il me dit, vous savez, les écoutes, ça peut toujours.
Non mais attendez, ça c'est normal. Si le type dégoise sur son patron, c'est normal qu'il n'ait pas envie de vous prendre au téléphone.
Ah non, c'était pas du tout pour dire du mal de son patron.
Ah bon ?
Ah non, c'était pour le défendre et pour défendre la politique qui était menée à l'époque. Mais simplement, il n'avait aucune confiance dans les téléphones. Vous savez, c'est un fantasme. D'abord, si journaliste, vous n'êtes pas écouté, c'est que vous êtes un tocard.
Hein. Mmh, ah bon ? Oui. J'ai parlé de votre histoire et votre carrière. Vous entrez au Canard Enchaîné en 71.
Oui.
C'est sous votre impulsion que ce journal, qui était d'abord plutôt satirique, devient en plus un journal d'enquête, ou l'inverse, le Canard vous engageait pour faire des enquêtes.
Oui, c'est Jean-Raoul Clémentin qui était rédacteur en chef. Et Jean-Raoul Clémentin a voulu développer le Canard dans le sens de l'enquête politique, y compris un peu en politique étrangère. Et donc, il m'a embauché, mais il a embauché d'autres journalistes. Et c'est à partir de ce moment où le Canard, bénéficiant déjà de son... une hostilité au régime gaulliste, a vu, disons, la possibilité de se développer encore plus.
Claude Angéli avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Claude Angéli avec nous, journaliste, l'affaire des diamants de Giscard, l'affaire des micros au Canard Enchaîné, l'affaire des faux électeurs de Tibéri, les appartements d'Alain Juppé, du ministre Hervé Guémard, les vacances d'Alio Marie en Tunisie, eh bien c'est lui en partie, puisque vous avez été très longtemps le rédac chef du Canard Enchaîné, dans lequel vous écrivez encore toutes les semaines. Est-il vrai que vous n'avez pas le bac ?
C'est vrai.
Mince, alors comment on fait pour faire une carrière comme ça, sans le bac ?
Bah écoutez, c'est qu'après j'ai un peu lu et beaucoup travaillé.
Est-il vrai que vous avez été viré du Parti communiste en 64 ?
Exact.
Pourquoi ils vous ont viré ?
Bah parce que j'étais pas dans la ligne.
Ah bon ?
Et on était nombreux, j'étais aux jeunesses communistes et il y a toute une série de gens des jeunesses communistes ou des étudiants communistes qui ont été virés parce que...
Sur quoi ça a chopé de votre côté ?
Ah bah on était plutôt, à l'époque, plutôt partisans du Parti communiste italien qui était plus ouvert.
Ouais.
Et on rêvait de transformer le Parti de l'Intérieur. Vous voyez quel rêve absurde.
Est-il vrai que quand vous étiez rédac-chef du Canard, vous refusiez qu'il y ait des femmes journalistes au Canard ?
Non, c'est complètement idiot.
Libération, 4 février 2002, oui. Vous leur disiez dans les années 80, pas de femmes au Canard.
Mais j'ai jamais dit ça.
Ah bon ?
Alors là...
C'est Libé qui le dit, un portrait de vous. Même François Fillon a attaqué, pour se défendre, Le Canard sur le thème de la misogynie.
La misogynie, je crois que plutôt c'est M. Fillon, parce que mettre sa femme dans de telles situations, l'obliger à pleurer en public, et tout, non, c'est lui le misogyne.
Est-il vrai que Dominique de Villepin a fait partie de vos informateurs ?
Non, je l'ai rencontré à peu près 25 ou 30 fois. Mais pour écrire des livres, c'est-à-dire...
Ah d'accord.
Voilà, c'est pas informateur. Bon, disons qu'il peut avoir donné des informations qui étaient intéressantes, mais c'était pas un traître, c'était pas une taupe.
Et François Hollande ?
Non, jamais.
Dis donc, quand il était à la tête du Parti Socialiste, il était surnommé le petit rédac-chef du Canard.
Oui, ça fait partie aussi des romanciers.
Ah bon ?
Des romans. Bon, il a été l'adjoint de Max Gallo, porte-parole du gouvernement Mauroy, je crois, oui. Et ensuite, bon, mes petits camarades qui s'occupent de la page 2 le connaissent et l'ont rencontré. Moi, jamais. Je sais qu'une fois, François Hollande a dit que j'avais mauvais esprit, c'était il y a 2 ans, mais que j'étais bien informé. Voilà, je fais reluire un petit peu ma petite personne.
Est-il vrai que 25 ans après l'affaire des micros, Raymond Marcellin, le ministre de l'Intérieur de l'époque, vous a invité à déjeuner ?
Non, il ne m'a pas invité à déjeuner. Il y a eu un film qui était fait sur l'affaire des micros, où Marcellin s'était exprimé, et il a demandé à me rencontrer. Alors, donc on s'est rencontrés avec les réalisateurs du film.
Il voulait vous dire quoi ?
Ah ben non, c'est lui qui avait demandé.
Ah non, alors moi, ce que j'ai appris, non seulement il voulait vous rencontrer, mais il voulait vous rencontrer pour vous dire qu'il y était pour rien.
Ah mais
c'est
oui,
vrai ça ou c'est pas vrai ?
C'est vrai, je me suis levé quand il est arrivé, parce que c'était 25 ans après,
ouais.
Et je l'ai salué en disant « Alors, c'est Verdun ?» L'idée que c'est une bataille d'il y a très longtemps. Et il s'est assis, on a parlé, et puis il a recommencé à dire qu'il était pour rien et tout. Je lui ai dit « Écoutez, monsieur Marcellin, vous étiez ministre de l'Intérieur, c'est peut-être pas vous qui l'avez décidé, moi je crois que ce sont les conseillers de Pompidou, mais vous aviez sous votre autorité la DST, le service de contre-espionnage. Bon. » Si vous ne saviez pas qu'ils allaient tous les soirs, après le départ des ouvriers, bricoler chez nous, c'est que vous n'étiez pas ministre de l'Intérieur.
Et là, il a répondu quoi ?
Il a répondu, non, c'est Gallet, c'est le ministre des Armées, ce qu'on appelait le ministre de la Défense à l'époque, parce qu'on avait sorti les manœuvres d'état-major, où il y avait une série d'imbécilités.
C'est dans votre livre.
Ouais.
Voilà. Est-il vrai qu'au restaurant chinois où vous avez vos habitudes, vous prenez toujours les mêmes plats exactement dans le même ordre ?
Exact.
Pourquoi ? Vous changez jamais de plat ?
Non, parce que je les trouve agréables à déjeuner, pas trop lourds, voilà.
Vous faites ça dans tous les restos ?
Non.
Il n'y a que ce resto-là ?
Oui.
Est-il vrai qu'en fin de repas, vous prenez toujours un petit alcool chinois que vous appelez mon médicament ?
Non. Ah. C'est les Chinois de ce restaurant qui l'appellent médicament. Et donc, j'ai suivi le temps et je prendrai un médicament peut-être tout à l'heure avec un invité.
Ça soigne bien ?
Non, c'est de l'alcool de riz.
Merci beaucoup, Claude Angéli, d'être venu nous voir, à consommer avec modération.